Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau magazine Comme un lundi du 22 mars 2021, toujours en direct à midi sur Radio Albigès et rediffusé à 18h, et toujours entouré de mes acolytes Arnaud avec moi dans le studio, et oui, il a la technique, ça va bien les collègues.
Comme un lundi quoi.
Comme un lundi.
Très oui. Très bien.
Le week-end était bon hein. Oui. Et bien c'est parfait si ça va bien, et au sommaire, alors aujourd'hui, on commence avec un reportage. Arnaud, toi tu étais du côté du Grand Théâtre d'Albi samedi dernier, c'est ça?
Eh oui, une manifestation en soutien aux acteurs culturels, donc plus de 300 personnes s'étaient réunies. On a eu droit à des mini-concerts, des mini-représentations, mais aussi à des prises de parole des acteurs du milieu culturel tarnais albigeois.
Et on écoutera donc un extrait d'un magazine plus long format qui vous sera diffusé plus tard sur Radio Albigès. Will, ensuite tu nous parleras de l'association ALEM, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme?
ALEM, c'est un H, c'est pour habitants et habitantes de logements éphémères ou mobiles, des gens qui vivent en caravane, en yurt ou en tiny house ou autre, et on entendra un peu un extrait d'un magazine qui sera diffusé demain sur les ondes, et on fera écho à une manifestation qui va se passer ce week-end autour de la journée européenne pour le droit au logement, donc...
Ok, au logement et au logement mobile.
Notamment.
Ensuite, on écoutera deux représentantes de l'association des familles rurales du COS pour parler de trois friperies qui sont gérées par cette association, à Vaour, Les Cabanes et à Penne. Pareil, un extrait d'un magazine qui vous sera diffusé ce vendredi, ce sera dans le magazine à Toutarn à midi et 18h. Ensuite, après un peu de musique, Arnaud, tu nous proposeras deux extraits de créations radiophoniques qui vous seront diffusés très prochainement sur nos ondes. On enchaînera ensuite avec la suite de la série Regards sur l'altérité, proposée cette semaine par Antenne Doc. Et pour finir, comme d'habitude, quelques brèves et vos messages laissés sur la boîte vocale. Alors Arnaud et Will, c'est quoi le numéro pour laisser les messages?
05 63 77 61 75.
Ouais, c'est parfait. Allez, comme un lundi, c'est parti.
Ce samedi 20 mars, à l'appel des organisations professionnelles du spectacle vivant, les acteurs culturels tarnais se sont associés à un mouvement national pour réclamer la réouverture des lieux culturels et la défense du secteur culturel. À Albi, c'est plus de 300 personnes qui étaient rassemblées sous le soleil et devant le théâtre des Cordeliers. Pour l'occasion, plusieurs formations artistiques ont pu s'exprimer lors de mini-concerts ou de mini-représentations. Musique, jazz, slam, danse et bien sûr prise de parole. Vous pourrez retrouver donc prochainement une émission consacrée à cette manifestation. Mais pour l'instant, voici quelques extraits sonores de cette journée du samedi 20 mars.
Moi aussi, je crie masque. Alors, toi aussi, tu cries masque. Et toi, tu cries masque. Elle crie masque, tu cries masque. On crie masque. Masque. Merci, c'était Double Impact, Culturisme Update.
En nous réunissant aujourd'hui, nous revendiquons d'abord la nécessaire reconnaissance des droits culturels inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire que chacun puisse avoir accès à la culture, mais également y prendre part. Nous revendiquons aussi la place essentielle de la culture dans notre société comme élément structurant du lien social, comme élément politique. À cet endroit, l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui jouent un rôle primordial pour que la culture vive sous toutes ses formes, dans sa plus large diversité. Nous vivons un moment politique sans précédent. Notre planète étant mise au pas par des choix que nous nous aurions récusés complètement, mais qui hypothèquent cependant l'avenir de nos sociétés, si nous considérons donc que la culture n'est pas que divertissement et qu'elle a une fonction politique. De ce point de vue, en pandémie, comme le dit Barbara Stiegler dans son tract chez Gallimard, nous avons raté quelque chose au sujet de la culture. Nous sommes rassemblés par parce que nous aspirons à une société plus humaine que celle qui nous est imposée avec le silence de la culture. Aspirer à une société plus humaine, plus juste et solidaire, c'est ce qui fonde le projet de la MJC d'Albi et du mouvement des MJC dans leur ensemble. Du fait des mesures sanitaires, nos activités à la MJC sont fortement réduites. Et c'est dans ce contexte que la ville d'Albi a choisi de réduire de moitié son soutien financier, sa subvention de fonctionnement, à la MJC d'Albi. Ce qui, vous l'avez compris, place son économie en sérieuse difficulté et compromet grandement son avenir. Nos aspirations n'en sont pas pour autant diminuées. Malgré le double handicap qu'impose le contexte pandémique et la décision municipale, nous sommes là et comptons bien sur l'éveil de chacun d'entre nous pour contribuer à faire œuvre commune pour la culture, pour un monde vivable et désirable. La MJC d'Albi lance un appel, vous le verrez sur les tracts que nous distribuons. Faites-nous part de vos désirs, des plus sages aux plus fous, inventez avec nous le futur de la MJC, soyez avec nous. Plus que jamais, mettons en œuvre une intelligence collective pour occuper l'espace public avec nos utopies, nos rêves et notre réalité, pas simplement celle qu'on veut nous imposer. Et si nous avons effectivement raté quelque chose dans la culture, faisons avec Beckett le pari de rater mieux. Je vous cite Beckett dans Cap au pire. Essayez encore, ratez encore, ratez mieux encore, ou mieux plus mal, ratez plus mal encore, encore plus mal encore. Merci.
D'être ensemble, de battre la mesure ensemble, vous voulez bien qu'on essaye? C'est peut-être que vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Hein. Merci d'être là.
Culturels tarnés s'associent à un mouvement national pour réclamer la réouverture de nos lieux et plus globalement la défense de notre secteur. Un printemps inexorable, rebranchons la culture. Les acteurs culturels tarnés donc restent solidaires des revendications vitales pour notre secteur, la réouverture des lieux de culture dans le respect des consignes sanitaires, l'accompagnement urgent de la jeunesse et de la nouvelle génération d'artistes coupés en plein vol et sans visibilité sur l'avenir, le prolongement de l'année blanche, au minimum jusqu'à un an après la sortie de crise, la résolution et le rattrapage des incohérences sociales des salariés en fin de droit, en congé maladie ou maternité, la création d'un fonds de solidarité pour l'emploi avec la reconnaissance des temps de recherche et de répétition, le financement d'un plan de relance et compensation des pertes d'exploitation, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage profondément injuste dans un contexte où les plus fragilisés de nos concitoyens sont déjà les grandes victimes de la crise économique que nous traversons. Mais surtout un dialogue avec l'État, des décisions justes et équilibrées pour un apaisement et un respect du secteur culturel sous tension. Merci pour votre écoute.
Voilà des échos du rassemblement du samedi 20 mars à Albi, rassemblement en soutien au secteur culturel. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur nos ondes le vendredi 2 avril à midi et 18h, avec les interviews entre autres de Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi, Michel Guerrero de la société AMG Audio qui s'occupe notamment de la sonorisation et de l'éclairage de plein de festivals dans le Tarn. Il y aura aussi Jamel de l'AJDR, l'asso des jeunes danseurs de rue, et bien sûr l'interview d'artistes et de publics venus nombreux donc pour ce rassemblement du 20 mars, rassemblement en soutien du secteur culturel.
Comment ça va? Comme un lundi, je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler.
Voilà, et sans transition, on va parler de trois petits cochons, tiens. Si les trois petits cochons du conte pour enfants avaient vécu après la loi Allure ou la loi Duflo de 2014, peut-être auraient-ils choisi de vivre en yourte, en tipi, en bus ou en tiny house, choisi plus ou moins et plus ou moins longtemps. D'ailleurs, sans doute parce que tous les élus ne sont pas très formés, par exemple, à la réglementation autour de l'habitat léger ou mobile, et les préjugés vont bon train pour mener la vie dure à celles et ceux qui ont fait le choix ou n'ont pas vraiment le choix de vivre dans ces logements. Voici un extrait de notre rencontre avec Romain, Ondine et Mathieu de l'antenne tarnaise de l'association Alem France. Alem donc pour habitants et habitantes de logements éphémères ou mobiles. Du coup, est-ce qu'une des premières missions qu'Alem s'est posée, c'est de bien connaître les lois et de voir qu'est-ce qu'elles voulaient dire vraiment?
Ouais, de connaître les lois. Il y a ce qu'on propose aussi au niveau local ici, c'est les aïkidos juridiques, c'est-à-dire se servir de la juridiction mise en place pour se défendre avec. Parce que c'est vrai que il y a des possibilités, comme on l'a évoqué avec les STECAL. Il y a la jurisprudence, il y a un gros travail de suivre les procédures en cours pour se servir des verdicts, pour des jurisprudences en faveur des cas d'habitat léger. Lire, écouter, et du coup, il y a quand même, en fait, au sein d'Alem, je crois que c'est créé en 2002 ou 2005, je sais plus. Ça, il y a quand même un bagage assez fort avec Alem. Il y a le droit au logement, le DAL, qui quand même fait un gros travail plus sur le côté citadin en ville et plus sur le logement locatif. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui travaille énormément sur les gens qui sont dans le besoin. Donc il y a quand même beaucoup de ressources. Notamment l'état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, plein d'écrits qui ont été faits de l'ONU. Il y a des rapports sur l'ONU qui sont contre la financiarisation du logement et qui rappellent que le logement c'est un droit fondamental, quoi, c'est pas un bien mercantile. Et donc et après on a quelques personnes dans l'association Alem France qui sont hyper compétents et plus compétents que les beaucoup d'urbanistes en la question, quoi, parce que c'est quand même très spécifique l'habitat léger. Nous, on se forme, et aussi via les personnes qui sont juristes au sein de l'association, on propose des formations aux élus et aux personnes qui ont des procédures et qui veulent en savoir plus sur l'habitat léger. Du coup, parce que souvent les élus, ils se rendent compte que l'habitat léger, c'est une solution pour dynamiser les campagnes, que c'est vachement intéressant au niveau local pour les communes, pour créer de l'emploi aussi dans le milieu rural, et ils n'ont aucune solution. C'est-à-dire, on les forme pas. Voir la dernière fois, il y avait une formation proposée par la DDT. C'était sur la police de l'urbanisme. C'était au contraire pour parce que certaines personnes disent que c'est un problème l'habitat léger. Et donc, on propose des formations aux élus pour qu'ils aient des éléments de réponse. Parce que souvent, les personnes qui sont en habitat léger se retournent vers les mairies en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a plein d'élus de communes qui ne connaissent pas la loi Allure et les STECAL qu'on évoquait tout à l'heure.
Est-ce que l'habitat léger, ou mobile, ou les deux, c'est une façon de re-questionner la propriété privée ou pas forcément? Et aussi, est-ce que c'est une façon d'accéder à la propriété privée pour des gens justement qui n'ont pas beaucoup de sous ou qui ne cherchent pas à en avoir beaucoup?
Du coup, c'est vrai qu'il y a. On peut voir dans l'état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, on estime à 8 millions de personnes en France touchées par la crise du logement. Donc c'est une personne sur 10, même plus, je crois. C'est pas mal. Et du coup, c'est vrai que l'habitat léger permet à moindre coût, en répondant à la crise écologique, à se réinstaller dans les zones rurales qui ont besoin d'être dynamisées. Clairement, à moindre coût, ça veut dire qu'on permet une certaine mixité aussi. C'est une possibilité donc à des gens moins aisés, plus jeunes, et des catégories sociales les plus en galère, ça leur permet de s'installer. Ouais. Pour l'aspect financier, ouais, énormément. C'est clair que, parce que souvent c'est, après vient la question de bon, est-ce que c'est choisi ou pas. C'est vrai que nous on a souvent des profils auxquels on est habitué à ces formes de cabanes, de bus. Est-ce que c'est choisi? Ben, je suis pas sociologue, j'aurais du mal à le définir, mais en tout cas, ça nous convient.
Alors, en complément, je pense qu'on peut aborder également le fait du manque criant d'offres locatives qu'on va avoir dans nos départements. Nous, au début, avant d'avoir réussi à s'installer dans le Cordé, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver des locations, des offres de location à prix raisonnable, c'est-à-dire étant justement quelqu'un qui n'avait pas énormément d'argent et des salaires classiques au SMIC. Très difficile d'acheter, donc très difficile d'obtenir un emprunt, car souvent il faut être locataire ou avoir des garants, enfin c'est très compliqué, donc c'est très difficile, voilà, impossible de ce côté-là. Mais surtout, voilà, la location n'existe pas dans nos campagnes, peut-être en partie à cause du tourisme. On a beaucoup de logements qui sont très très beaux, mais qui sont loués que l'été pour les touristes du Tarn. Après, bon, c'est un bien également, hein, mais du coup, on manque beaucoup de logements à la location, ce qui est pour beaucoup une difficulté insurmontable. Et donc la solution pécuniaire la plus simple, enfin la solution financièrement viable, va être justement d'emprunter un terrain à quelqu'un qui a pu l'acheter, un agriculteur, de s'installer sur une des parcelles inutilisées, dans un bois ou quelque part, et de pouvoir s'acheter pour souvent une bouchée de pain, mais voilà, pour les plus fortunés d'entre nous, ça va être pour entre 10 000 ou 20 000 euros pour acheter la dernière tiny house sortie magnifique, et d'autres faire de l'autoconstruction dans un habitat mobile, ou de l'autoconstruction d'une yourte, comme de nombreux tutoriels, enfin de nombreuses explications permettent d'expliquer comment le faire. À base de récupération, donc souvent, voilà, c'est des habitats à impact écologique extraordinaire, parce qu'ils ont été fabriqués avec beaucoup de matériaux de récupération, et au moment de repartir, ils pourront partir directement, ils pourront être recyclés, compostés pour la plupart, au moins recyclés, et ils se transformeront en autre chose. Donc clairement, c'est une solution pour l'accès à l'habitat.
C'est aussi un choix, des fois, dans ce genre d'habitat, parce que moi, par exemple, en tout cas, je faisais un métier mobile, donc je suis partie avec mes habitats, à chaque fois je bougeais avec cet habitat et je vivais dedans. Donc quand je revenais, forcément, je n'allais pas acheter ou louer, enfin, c'était normal. Donc quand je me suis installée, j'ai gardé mon habitat, donc ça ne me paraissait pas de louer, j'étais déjà bien dans mon lieu, donc voilà. C'est pas, des fois, c'est pas forcément... c'est aussi une histoire de sous, souvent, parce que de toute façon, on ne peut pas s'installer et dire bah, « Tiens, je vais acheter une baraque à 200 000 euros, là, ce sera super, en plus d'avoir mon logement mobile. Mmh. » Non, on fait avec ce qu'on a aussi, finalement. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai acheté en me disant « Peut-être ça me sécurisera plus, mais finalement, ce n'est pas forcément besoin. » Mais dans nos sociétés, ça demande un peu, quand même. Ça pousse un peu, en tout cas, à avoir son lieu pour être sûr de ne pas être... jarté.
La propriété est sacrée.
Ouais, il y a un peu de ça, hein, beaucoup en France en tout cas, et je pense dans beaucoup de pays européens ou occidentaux. La propriété, et puis mettre des murs autour, ou des haies, ou des. Et dès que c'est pas défini, en tout cas par exemple, bah, s'il n'y a pas un fil avec marqué terrain privé, bah, les gendarmes ils se permettent de pouvoir entrer, alors qu'en fait, l'idée c'est de dire bah non, bienvenue aussi finalement.
Voilà un extrait de l'émission du créneau micro ouvert de la semaine sur Albi 16, diffusée demain mardi 23 mars à 16h. A noter aussi donc, on en parlait tout à l'heure, que ce 27 mars, l'association ALEM et une myriade d'organisations françaises vous proposent de rejoindre la mobilisation de la journée européenne pour le droit au logement portée par la Coalition européenne d'action pour le droit au logement. Ce 27 mars, donc, ce sont aussi les 7 ans de la loi Allure qui ont reconnu l'habitat démontable comme mode d'habitat à part entière, alors même que la situation n'est pas améliorée et qu'il ne s'est pas améliorée et qu'il reste beaucoup à faire pour l'intégration de ces modes d'habitat mobiles, amovibles et modulaires dans l'urbanisme contemporain et futur. Et donc, que vous soyez habitant, militante ou sympathisant, vous êtes invité à manifester de façon légère et adaptée, cela peut être sur un marché, devant une mairie, un tribunal ou une communauté de communes, ou sur une aire d'accueil. Quelques personnes avec une pancarte, une banderole suffisent, des tracts ou des pétitions à l'appui. Et n'oubliez pas de prendre des photos pour les envoyer sur le site www.pourlelogement.org.
Dans 3000, les gens vont parler avec des ondes.
Comme un lundi. Comme un lundi.
Les baleines le font. Et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Et la communication se fait comme ça.
Quel philosophe, c'est ouais, Jean-Claude Van Damme.
C'est ça.
Magnifique ces nouvelles virgules, en tout cas pour Comme un lundi. Toujours branché donc sur Radio LBGS, hein, dans ce magazine du 22 mars. Et on continue maintenant avec l'association des familles rurales du COS, puisque la semaine dernière, nous avons reçu deux représentantes de cette association. Et on vous diffuse donc le magazine complet ce vendredi sur nos ondes. Et en attendant, on écoute tout de suite un extrait avec Marie-Ange Cotteret, une des administratrices de cette association, et Jamila Benzidane, coordinatrice des friperies, dont elle va nous parler un peu plus en détail.
La première action est donc les friperies. Juste à titre informatif, nous allons fêter les 30 ans là, cette année.
Les 30 ans des friperies ?
Des friperies, oui. Okay. Famille rurale a été précurseur. Voilà, ça a commencé par des mamans, des jeunes mamans à l'époque qui effectuaient des trocs de vêtements de bébés. Et puis assez vite, comme le jeu a bien pris, elles se sont vite senties envahir par les vêtements. Elles ont eu cette idée de monter la friperie de Vaour, la première friperie. Okay. Voilà, donc bah là, on termine sur l'information friperie, on termine sur la braderie. On sort de 15 jours de vêtements à 1 euro pièce. Voilà, donc on va remettre la nouvelle collection printemps-été dès la semaine prochaine. Ouais. Voilà pour l'actualité friperie. Après,
Est-ce que je pourrais rajouter quand même aussi une chose, c'est que ces friperies sont un lieu de rencontre. C'est un lieu, enfin, ce sont des lieux extrêmement favorables au lien social, justement à la solidarité, à se rendre compte aussi des personnes qui ont besoin d'un coup de main parce qu'elles viennent là. Donc on a aussi énormément de bénévoles qui viennent aussi pour rencontrer du gens et pas être tout seul. En fait. Mmh. Et donc des personnes, là dernièrement, on a deux jeunes personnes de peine qui viennent de rentrer au conseil d'administration. Alors qu'elles étaient venues aussi au départ en tant que bénévoles pour, comme moi en fait, hein, bénévoles au départ. Et puis voilà, on se prend au jeu, on aime bien les copines et puis les choses qui sont faites sont comme des friperies, c'est absolument génial. Moi, je m'habille pas tout à fait complètement, mais je veux dire en grande partie. Friperie.
Et ben en plus, il y a un gros mouvement en ce moment, hein, le vêtement de seconde main, là, c'est un peu la mode. Est-ce que vous le sentez aussi à Vaour ? Il y a beaucoup de jeunes aussi qui se mettent à aller faire les
Alors, trucs. Oui, par exemple, on a plus de 70% des moins de 50 ans à Vaour qui viennent se vêtir à la friperie.
Okay.
Une grande augmentation des adolescents. Il y a vraiment une prise de conscience.
Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Au niveau consommation, c'est pas forcément uniquement pécunier, hein, c'est une démarche économique. Enfin, éthique.
Oui, oui.
Voilà. Et ça, on l'a remarqué depuis quelques années. Quoi.
Okay. C'est ce que vous entendez quand vous en discutez avec les clients aussi, cette prise de conscience par rapport aussi à la mode, au monde de la production vestimentaire qui est un petit peu décrié en ce moment,
oui.
On va dire.
Oui, parce qu'il n'est pas rare de trouver des vêtements fabriqués en France, qui sont encore de bonne tenue, oui. De qualité. Qu'on a... On a un tri très sélectif. On essaye de moins en moins de mettre au rebut. Et j'en profite justement pour peut-être faire une petite annonce.
Allez-y, c'est pour ça.
Puisque pour l'instant, nous n'avons pas les infrastructures pour laver, réparer les vêtements. Mm-hmm. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous mettions dans les bornes relais. Et nous souhaiterions en fait optimiser les dons en les lavant. Donc on essaye de monter un des dossiers de subvention, comme nous sommes une petite association, pour investir dans une machine à laver et sèche-linge. Donc voilà, si un auditeur, une auditrice avait ça à nous céder le temps de monter le dossier et d'avoir les subventions, nous sommes preneurs.
Ok, donc vous recherchez machine à laver, séchoir, grande capacité j'imagine vu le...
Oui.
Si possible.
Oui, oui.
Ok, et c'est marrant parce que du coup ça rejoint un petit peu l'histoire de la Fondation
la
des Familles Rurales qui a été fondée pour mutualiser des machines à laver. Et donc vous êtes toujours complètement dans le thème. Ok, est-ce qu'on voulait ajouter d'autres informations peut-être sur la friperie ?
Oui, comme disait Marie-Ange, c'est avant tout un lieu d'échange. Mm-hmm. Beaucoup de bénévoles s'investissent, souvent comme moi, la première fois, c'était une façon de m'intégrer dans le village, sur le territoire, multiplier les réseaux, Donc voilà, qu'on soit consommateur entre guillemets ou bénévole, ce sont vraiment des lieux où normalement hors Covid, nous proposons toujours un café. Voilà, on n'est pas obligé de venir pour acheter. On vient demander une info, donner une info, parler. Voilà, c'est surtout ça, quoi.
Un vrai lieu de sociabilisation.
Tout à fait. Ok. Tout à fait.
Et super. Et donc du coup, il y en a trois, vous avez dit ?
Oui, nous en avons une donc à Les Cabanes, hein, qui se situe à côté de Cordes. Ouais. Nous en avons une donc la fameuse à Vaour, mm-hmm. et nous en avons une autre sur Peine.
Ok.
Voilà.
D'accord.
Avec des horaires d'ouverture, voilà, c'est petit, hein, nous ne sommes pas ouverts 7 jours sur 7. Hein,
ok, c'est,
voilà,
vous pouvez les donner peut-être les horaires d'ouverture.
Oui, comme nous travaillons avec des bénévoles, voilà, donc aux cabanes, nous ouvrons le mardi matin de 9h30 à midi, le mercredi de 10h, midi 30, 15h, 17h, et le samedi de 10h, midi 30.
Pour les cabanes.
Pour Vaour, nous sommes ouverts le jeudi matin, jour du marché, de 10h à midi et demi, et le samedi de 15h à 17h. Et en ce qui concerne Penn, nous sommes ouverts le samedi matin, de 10h à midi et demi, et de 15h à 17h.
Ok, alors vous avez tout parfaitement en tête.
Voilà.
Je suis impressionné. Ok, alors donc ça c'était pour la partie friperie. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions ? J'imagine, oui, forcément, il y en a que vous proposez un peu tout au long de l'année. Et qui, avant de revenir un petit peu sur les rendez-vous précis qui vont avoir lieu.
Oui, alors nous avons...
Alors il y a déjà une mission d'information locale, parce qu'en fait... Des informations, il y en a, mais des informations un petit peu compactées et régulières, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a une lettre mensuelle, une lettre d'info, d'ailleurs, je pense que vous la recevez.
Et oui.
Voilà, il y a une lettre de rentrée aussi qui permet de mettre toutes les informations concernant les activités qui vont s'ouvrir pour l'année, etc. Enfin bon. Mm-hmm. Et puis, des lettres ponctuelles, comme là, pendant le Covid, il y a eu plusieurs lettres qui ont été importantes parce qu'elles sont ouvertes et lues. De façon assez massive.
Oui.
Donc j'ai pas les statistiques là sous la main, j'aurais dû penser, mais bon, peu importe.
Donc ça, toutes ces lettres, c'est par mail, hein, c'est ça, c'est
oui, oui, c'est par mail. Et puis là, il y a un projet quand même pour la lettre mensuelle, notamment, d'essayer avec les communes, les quatre communes dont Jamila a parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une version papier, parce que tout le monde n'est pas sur Internet, surtout dans nos milieux ruraux. Il y a des personnes, d'abord, qui par volonté n'ont pas envie d'y être, et puis d'autres personnes qui tout simplement n'y sont pas parce que c'est d'un autre âge, et voilà.
Et oui.
Donc, cette question d'information, elle est primordiale aussi en ce qui nous concerne, parce que c'est du lien social aussi.
Oui, pour savoir ce qui se fait autour de chez nous, pour savoir quand est-ce qu'on peut aller rencontrer les gens qui habitent à côté de chez nous. Et donc, du coup, alors...
Et ça, c'est un gros boulot. Hein.
Et ouais, je comprends bien. Et en attendant peut-être la version papier, comment on fait pour recevoir la version numérique, si on est intéressé pour
On va voir Jamila à la friperie. Non, mais il suffit d'envoyer un petit mail
à l'association.
À l'association, okay. Et c'est fait immédiatement, ou du bouche à oreille, comme on fait aussi, ou c'est aller dans une friperie, ou enfin voilà.
D'accord. Et donc vous soutenez aussi les initiatives des habitants, des habitantes, si jamais on a un projet en tête ou quoi, il ne faut pas hésiter à venir vous voir, soit sur les friperies ou vous contacter. Peut-être justement parler des personnes qui n'auraient pas accès à Internet ou qui ne le souhaiteraient pas. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone à nous donner si jamais elles souhaitent vous contacter?
Oui, alors vous pouvez composer le 05 63 56 39 23.
Ok, donc on note le 05 63 56 39 23. Et voilà, n'hésitez pas à venir à votre rencontre. On rappelle aussi donc sur la page Facebook, sur le site internet tarn.famillerurale.org. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à vous d'être venu dans les studios de Radio Albigès pour nous expliquer tout ça. Et on vous souhaite bon courage et bonne chance en espérant la reprise de toutes les super activités que vous allez proposer. Merci donc Jamila Benzidane et Marie-Ange Cotteret pour l'association des familles rurales du COS.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Et donc pour retrouver toutes les actions, les activités de cette association, on vous donne aussi rendez-vous ce vendredi à midi et 18h sur Radio Albigès dans le magazine À Tout Tarn pour écouter l'intégralité de cet entretien. Allez, un peu de musique maintenant, on va écouter un titre de Nolam. Alors à savoir que c'est un artiste que vous retrouverez aussi ce soir à 20h sur Radio Albigès dans la troisième émission Pollux Mag FM. Alors Arnaud, quel titre tu nous as sélectionné ?
On a choisi le titre Sweet Angel, donc il est extrait de son album Back on the Road sorti en juillet 2020. Thank you.
hope you will be proud of me. You're my sweet danger.
Nolam à l'instant sur Radio LBGS avec le titre Sweet Angel en duo avec Nina. Nolam que vous pourrez retrouver d'ailleurs ce soir à 20h sur nos ondes dans Pollux Mag FM. Encore un beau programme pour cette troisième émission. Jimmy et Vincent seront avec Olivier de La Lune derrière les Granges et Olivier Dubois-Légasson, deux Olivier et deux Castres en plus pour le prix d'un. Ils seront également avec Margot, bénévole de l'association Pollux, et Nolam donc en interview et en session live pour clôturer l'émission où il nous fera d'ailleurs une petite version live du morceau qu'on vient d'écouter. Rendez-vous donc ce soir sur Radio LBGS à 20h et jeudi à 22h pour la rediffusion. Et on continue toujours donc ce commun lundi du 22 mars avec Arnaud. Toi, tu vas nous parler maintenant de création radiophonique.
Et oui, cette semaine sur Radio LBGS, on retrouvera deux émissions consacrées à des projets de création radiophonique. Comme beaucoup, les artistes se sont adaptés à la crise sanitaire, privés de scène, oui, mais pas privés d'espace pour s'exprimer. Alors la création radio, appelée aussi le théâtre radio ou bien la fiction sonore, est devenue un support bien utile permettant pour des compagnies de théâtre la continuité des projets du théâtre, oui, plus sur la scène, mais à la radio. Alors rendez-vous ce mercredi à 16h et samedi à midi. Vous pourrez retrouver la création radiophonique Graines d'acteurs en confinement, un projet de l'atelier théâtre de la MJC d'Albi que nous présente Clémentine Saint-Toul-Colombresse.
Moi, je suis comédienne, en fait, metteuse en scène, et j'ai une compagnie qui s'appelle La Mescla, qui se développe en Aveyron, dans le Tarn et en France, et même un peu à l'étranger. Et du coup, moi, je suis en charge des ateliers enfants, adultes et ados de la MJC. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
Et oui, puisque on va parler donc de ces ateliers de théâtre et plus précisément d'un projet qui s'appelle Graines d'acteurs en confinement, un projet que vous avez réalisé durant la période de confinement, un projet de création radiophonique qui a permis de garder le lien, mais aussi d'aller et de découvrir de nouveaux horizons.
Oui, voilà. Alors l'idée, c'était que bon, bah, comme tout le monde, on a été un petit peu surpris et complètement bloqué par le premier confinement au mois de mars, donc de 2020. Et il s'avère que bon, le théâtre, c'est vraiment un art qui se pratique pour sa force de contact, j'ai envie de dire, d'être en face du public et être vraiment dans la proximité. Donc évidemment, pour nous, c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, il y a énormément de projets qui ont dû s'arrêter complètement. Et du coup, comme moi, je travaille depuis plus de 10 ans en tant que comédienne à France Culture dans les dramatiques radio à Paris, et que j'aime beaucoup l'univers du son, je trouve que c'est un imaginaire magnifique que peu de gens connaissent et que je trouvais vraiment vraiment intéressant à partager parce que ça développe beaucoup d'outils pour quelqu'un qui veut créer en général. Et plutôt que aller vers le naufrage, je me suis dit qu'on pouvait essayer de transformer le projet en fiction radiophonique, donc enregistrer des sujets joués, mais pour le micro.
D'autant plus que la création radiophonique fait appel aux mêmes axes de travail que le théâtre, c'est du théâtre radiophonique.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les fictions radiophoniques, c'est vrai que c'est pas tout le monde connaît pas forcément. Le principe, c'est le même, hein, c'est-à-dire que c'est des comédiens professionnels normalement qui jouent vraiment une situation de pièce. Et sauf que au lieu de jouer en direct pour un public, on le joue en direct pour enfin, plutôt en captation pour des auditeurs, ce qui implique de savoir jouer de la même façon avec des contraintes différentes, puisqu'on ne peut pas bouger puisqu'on a des micros. Donc, on doit reconstituer la dynamique du mouvement par des techniques de jeu et aussi un duo avec des bruiteurs qui bruitent avec nous en direct pour donner l'impression du mouvement et puis aussi le sol, donner l'impression qu'on est à la mer, faire la mouette qui passe, marcher sur des graviers, tout ça. Donc, c'est assez ludique et plein d'imaginaire.
Alors, deux émissions, deux créations radiophoniques ont été réalisées avec deux groupes différents, un groupe d'enfants et un groupe d'ados.
Mais c'est ça, parce que du coup, mon idée, c'était de dire, bon, soit on le fait tous, soit on le fait pas. Donc évidemment, c'était un petit peu une aventure. On se dit toujours, on peut, mais il faut travailler beaucoup. Et ça implique forcément que je travaille, mais aussi que les groupes tiennent la longueur et qu'ils continuent à avoir envie de se remettre en question, d'apprendre des nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, ça impliquait quand même d'apprendre pas mal de nouvelles choses à un moment où tout le monde quand même laissait beaucoup tomber. Donc psychologiquement aussi, c'était pas facile de pas lâcher, ce qui est encore le cas cette année. Et donc, il y avait un groupe d'enfants et un groupe de jeunes qui sont ici présents avec nous, qui attendent fébrilement de pouvoir donner leur avis. Et de l'année dernière, donc cette année, j'ai encore une petite qui s'appelle Lana à côté de moi. Lana, est-ce que tu veux bien nous dire bonjour ?
Bonjour.
Bonjour Lana, alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as et pourquoi tu fais du théâtre ?
Ben, j'ai 10 ans et j'aime bien le théâtre.
Ouais, qu'est-ce que t'aimes bien dans le théâtre ?
Jouer des scènes et...
Alors tu as participé à ce projet, tu as pu découvrir justement qu'est-ce que c'est qu'une création radiophonique, est-ce que ça t'a plu ?
Oui.
Ouais, tu peux nous expliquer un peu le travail, comment ça s'est passé ?
Ben, on faisait comme d'habitude, sauf qu'au lieu de bouger, ben, on restait sur place et on devait dire le texte qu'on avait appris, mais en étant en même temps dans le jeu.
D'accord, dans le jeu, sauf qu'à la place d'être devant un public et sur scène, tu étais devant un micro.
Oui.
C'est la première fois que tu parlais ou que tu jouais devant un micro.
Oui.
Et avant de jouer devant un micro, j'imagine il a fallu beaucoup de préparation. Est-ce que tu te rappelles comment vous avez préparé cette pièce radiophonique ?
Je sais plus trop.
Il y avait des choses difficiles quand on a enregistré, notamment quand on enregistre, qu'est-ce qu'on peut pas faire ?
Bouger. Enfin, on peut pas bouger quand on enregistre.
Et ça paraît rien, mais c'est vrai que quand on a 8 ans, pas bouger pendant je sais pas combien de temps, et puis non seulement il faut pas bouger, mais surtout il faut pas faire de bruit. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que quand on se gratte en secret, bah, en fait... Le micro, il nous entend. Donc, ça devient compliqué parce qu'il y a plein de petits bruits quand on joue en direct. En tant que comédien, on n'y pense pas. On sait que le public, il est loin, il ne nous entend pas. Et là, d'un coup, il entend tout. Alors, ça devient un peu angoissant.
Graines d'acteurs en confinement,
Partie 1, les enfants. Bakou et les adultes, c'est un texte théâtral de l'auteur contemporain Jean-Gabriel Norman. Bakou, c'est une fille et aussi un garçon. Bakou représente tous les enfants éveillés qui ont envie de rendre les adultes plus heureux. Bien sûr, nous et nos adultes, on s'aime, même si parfois on ne se comprend vraiment pas. C'est comme s'ils avaient oublié le plus important.
Nous avions commencé à répéter cette pièce dans laquelle nous jouons tous, et des enfants et des parents, ce qui nous demandait de bien observer les notes pour mieux les comprendre et pour mieux nous connaître nous-mêmes. Et puis le confinement est arrivé.
Clémentine a continué à nous faire travailler par vidéo, même si parfois c'était difficile pour nous d'être loin. C'est vrai que ce n'est pas très drôle, car nous, ce qu'on aime, c'est nous voir en vrai, pas derrière un écran. Au théâtre, on se parle, on se touche, on partage des émotions et après, on joue devant des gens qui nous observent, qui rient, qui pleurent, qui voyagent, qui rêvent, qui espèrent, qui réfléchissent à nos histoires. C'est pas pareil.
Clémentine nous a proposé d'écrire des textes pour parler de notre confinement et même de nous en servir pour continuer à travailler nos personnages. Bah oui, comme on était confinés toute la journée avec nos parents, on pouvait bien observer comme nous nous parlions au quotidien pour pouvoir jouer dans notre pièce.
Mais cette pièce, nous n'avons pas l'autorisation de la jouer au théâtre à cause du virus. Alors Clémentine a eu l'idée de nous faire enregistrer des extraits au micro. Ça existe à la radio, ça s'appelle une fiction radiophonique.
Nous vous souhaitons une bonne écoute, car si vous nous écoutez, alors malgré le confinement, notre histoire aura peut-être quand même le pouvoir de vous toucher et même peut-être de vous faire penser à ce qui est important.
Voilà, vous venez d'écouter l'intro de la création radiophonique Graines d'acteurs en confinement, réalisée par les jeunes de l'atelier théâtre de la MJC d'Albi. Donc, pour continuer l'aventure, rendez-vous sur les ondes de Radio Albigès ce mercredi à 16h et samedi à midi. Un autre projet de création radiophonique, c'est Louise et la mine paysage intérieur, un projet de la compagnie Trace, réalisé avec des élèves d'une classe de l'école Jean Jaurès de Cagnac-les-Mines, à retrouver sur les ondes mercredi à 14h et samedi à 16h. Nous avons rencontré Mathilde Bardou de la compagnie Trace qui nous présente sa compagnie et son projet.
Alors la compagnie Trace, c'est une compagnie de théâtre qui est toute jeune, hein, qui est née en 2018 et qui s'attache beaucoup à travailler sur les écritures contemporaines. On crée à la fois dans les salles et hors des salles. On s'intéresse beaucoup à la manière dont on peut se dégager, oui, de l'espace de la salle sans pour autant faire vraiment de l'art de rue. Notre premier spectacle en travaux sur un texte de Pauline Salle, voilà, jouer un petit peu sur la frontière entre les deux. Et donc voilà, on aime beaucoup ça, travailler un petit peu sur la porosité entre les deux.
Alors quand vous dites vous pouvez nous présenter un peu l'équipe de la
Alors,
compagnie.
C'est une compagnie qui est co-dirigée donc par Loïc Calmejeanne et moi-même. On travaille tous les deux, voilà. Et ensuite par projet, eh bien on allie des équipes, voilà, différentes, plus ou moins différentes en fonction. Le premier projet sur En Travaux, c'était avec Irène Le Gouet, qui est comédienne. Et là, pour La Mine et après, on a demandé à l'auteur Hélène Lanscotte de se joindre à nous.
On va le voir pour ce beau projet La Mine après. Il y a une belle équipe puisqu'il y a des comédiens, une direction artistique, mais aussi un preneur, un monteur de son.
Il y a un monteur, metteur en son, oui, qui s'appelle Nicolas Trussardi, qui a fait un gros travail de montage suite aux enregistrements qu'on a fait avec les élèves, pendant les 2 semaines de résidence à Cagnac.
2 semaines de résidence pour créer une fiction radiophonique. Comment a éclos ce projet? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la genèse du projet?
Alors à l'origine, on a joué en travaux le premier spectacle au musée du textile à la Bastide Rouyroux. Et c'est là qu'on a rencontré Karine Laborie et Sabine Boudourlia qui s'occupent des musées départementaux. Et elles nous ont dit, elles avaient beaucoup aimé le premier spectacle, et elles nous ont dit qu'elles aimeraient beaucoup qu'il se passe quelque chose au musée Mines à Cagnac. Et donc, suite à ça, on y a un peu réfléchi, on a fait une proposition, tout d'abord une très grosse proposition, parce qu'à l'origine, il y avait l'idée de, suite à la résidence, l'écriture d'un texte et ensuite une création à partir de ce texte, qui demandait un budget assez considérable et qui, avec les aléas actuels, n'a pas pu être fait. Donc on a réadapté un petit peu le travail pour finalement condenser un travail finalement assez conséquent de création sur les 2 semaines de résidence, complètement en lien avec les élèves et avec les habitants. Et donc voilà, et au départ, on ne savait pas qu'il allait y avoir le Covid et tout ça. Donc il y a eu d'autres embûches par la suite, mais on a tout de même réussi à le faire.
En tout cas, ce qui a plu, c'est justement cette accroche de la compagnie pour le faire en dehors de la scène sur un territoire et travailler justement avec le territoire, ses habitants et puis aussi son histoire, on va le voir.
Oui, complètement, c'était ça. Puis ce qui nous intéressait, nous, dans cette idée de travailler en lien avec le musée, mais aussi en lien avec ce territoire de Cagnac, c'était d'interroger la vie présente en fait, de cet endroit, qui est un passé minier très important, qui n'est plus actif aujourd'hui, enfin dont les mines ne sont plus actives. Et donc on voulait savoir ce que c'était le présent de Cagnac et comment les enfants d'aujourd'hui et les habitants, pas que les enfants, voyaient cet endroit, ce paysage en fait, leur rapport à leur propre paysage. C'est comme ça qu'on est rentré c'est comme ça qu'on a commencé la résidence en fait.
Donc 2 semaines de résidence avec une classe de CM2. Oui. De l'école Jean Jaurès.
Oui, la classe d'Olivier Lourenço de l'école Jean Jaurès, qui était fascinée, très très enjouée, et c'était très agréable de travailler avec eux.
Louise et la mine, paysages intérieurs. Une création de la compagnie Trace avec la classe de CM2 de l'école Jean Jaurès de Cagnac-les-Mines.
Où étais-tu passé?
J'étais dans ma cabane.
Louise, va te laver les mains d'abord et tu me raconteras après, d'accord?
Oui, mais j'ai vu. D'accord.
Mais qu'est-ce que tu as sous les ongles?
Quoi?
Regarde, tu as les ongles tout noirs. On dirait que tu as gratté dans la mine. Allez, frotte. Fais-moi partir ça.
Maman, j'ai entendu des voix dans la cabane.
Tiens, prends cette brosse, ça va t'aider. J'ai l'impression de voir les mains de papy quand il revenait d'en bas après une longue nuit de travail.
Mais maman, je ne suis pas allée à la mine. J'ai trouvé du charbon à côté de ma cabane.
Mais tu sais que ta cabane, c'est l'ascenseur où papy descendait pour aller à la mine.
Oui. Maman, j'ai entendu parler quelqu'un sous terre en ramassant le charbon.
Qu'est-ce que tu racontes? Bon, c'est fini, c'est même?
Oui.
Toute la soirée et toute la nuit, Louise songe aux voix qu'elle a entendues sous la terre.
J'ai dû rêver hier. C'est pas possible d'entendre des voix dans la terre.
Le lendemain, Louise, curieuse de réitérer l'expérience de la veille, retourne à sa cabane. Elle entre dans l'ascenseur.
Un extrait de la création radiophonique Louise et la mine, paysage intérieur, réalisé par la compagnie Trace et des élèves d'une classe de CM2 de l'école de Cagnac-les-Mines. Donc pour écouter la suite de l'aventure de Louise, rendez-vous sur nos ondes ce mercredi à 14h et samedi à 16h.
Comment allez-vous ?
Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Comme un lundi sur Albit 16.
Et on enchaîne maintenant ce magazine du 22 mars avec un nouvel épisode de la série Regard sur l'altérité, proposé en partenariat avec l'Assemblée régionale des radios associatives, l'ARA. Et cette semaine, on écoute Le Boulbe, une proposition de Radio Antenne Doc.
C'est au cœur d'un petit bois que notre histoire commence. Ce matin-là, la rosée donne aux herbes un aspect cristallin et fragile. Posé sur une branche, un petit oiseau aux couleurs de printemps pousse la chansonnette. Il a l'air toutefois intrigué, car cette journée ne s'annonce pas comme les autres. Il sent que c'est le début de quelque chose, autre chose.
Je sens près de moi de légères vibrations. On m'effleure doucement. Qui sont ces êtres? Ils déposent délicatement sur la terre des pierres, forment un cercle comme pour m'entourer de douceur. Une odeur d'herbe sèche coupée et de chaux m'enivre. À l'heure où le ciel se mêle de rose et d'orange, le petit oiseau fait à nouveau son apparition. Il se pose sur sa branche et s'adresse à moi.
« Qui es-tu ?»«
Je ne sais pas, je ne suis qu'un cercle. Et toi, qui es-tu ?»«
Je suis un petit oiseau qui adore chanter le printemps. Je m'appelle Bémol. »
« Voudrais-tu me dire qui sont les êtres qui étaient tout autour de moi hier ?»«
Bien sûr, ce sont des humains. »«
Des humains ?»«
Ceux-là sont différents. Ils ne m'empêchent pas de chanter. On dirait même qu'ils respectent Dame Nature. »
Les êtres d'hier sont de retour. Tout le monde se met en mouvement. L'odeur d'herbe sèche et de chaux se fait sentir à nouveau. Mais cette fois-ci, leur effluve se mélange.
Je sens des mains de différentes tailles. Toutes se posent sur moi, mais aucune d'elles ne dégage d'agressivité. Elles déposent de longues mèches d'herbe sèche et de chaux mélangées sur le cercle que je suis. Et à chaque mèche posée, je me sens grandir. Leurs mains s'entremêlent et s'entraident malgré leurs différences. Chacun se parle et écoute ce que l'autre a à lui dire. Leurs avis divergent parfois, mais on sent tellement en eux le besoin de former une unité. Ils savent que sans cette alliance et sans cette acceptation de leurs forces et de leurs faiblesses réciproques, ils ne pourront me donner vie. Voilà maintenant plusieurs jours que je me familiarise avec cette petite famille. Et maintenant, je les attends avec impatience, car je sens que chacun fait du mieux qu'il peut pour comprendre et respecter l'autre, mais aussi tout ce qui l'entoure. Les arbres, le sol, la faune, la flore, j'aimerais tellement les voir. Mon ami l'oiseau, je me sens parfaitement bien, mais dis-moi, à quoi je ressemble ?
Tu ne ressembles à rien de ce qui existe, tu es particulière. Ils t'ont rendue différente, merveilleusement différente. Tu es ronde, avec de jolies sculptures, toutes pleines de fantaisie. Tu as deux petites ouvertures sur les côtés, toutes rondes elles aussi, ce sont des fenêtres. Tu as également une autre ouverture, bien plus grande, un cercle de bois doré, c'est une porte.
Tu veux dire que je suis une maison ?
Oui, on pourrait dire ça, mais tellement différente des autres.
J'entends le chant de mon ami l'oiseau redoubler, à tel point que chacune des personnes qui m'entourent se met à danser autour de moi. Les mains se joignent et les voilà entrées dans la ronde.
La danse terminée, tous vont s'asseoir sur l'herbe fraîche. Le moment est sérieux. Une décision est en train de se prendre.
Mais que se passe-t-il, mon ami ?
Ils réfléchissent au nom que tu porteras. Car dans ce village, tout le monde a un nom. Même les habitations.
Le village ?
Regarde autour de toi, tu n'es pas seule.
Mais oui, tu as raison, je ne les voyais pas.
C'est normal, elles aussi se fondent dans la nature. La yourte, là-bas, s'appelle Kazakh. Tu peux voir à côté d'elle, Izba. La cabane. Pisé, la maison de terre. Cherokee, le tipi.
Au loin, les délibérations continuent. L'échange est réel. Chaque oreille est à l'écoute. Toutes les propositions sont entendues. Il faut que le nom choisi convienne à tous. L'oiseau vient vers eux. On lui parle.
Tu es une Kerter et tu t'appelles Brindille.
On peut lire sur chaque visage la satisfaction d'avoir pu construire ensemble ce village. En faisant de leur différence la plus grande des forces.
Merci, l'oiseau, d'être resté près de moi tout ce temps. Je peux te poser une dernière question ? Le village aussi porte un nom ?
Oui, bien sûr. Il s'appelle Altérité.
Et voilà. Et voilà, c'était une bien belle histoire hein, proposée par Antenne Doc. Le titre de cette petite création, c'était Le Boulbe. Et puis c'était donc un nouvel épisode de la série Regard sur l'altérité qui nous est proposé par l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives, en partenariat avec la région Occitanie. Et logiquement, si tout se passe bien, on devrait vous proposer un épisode par semaine dans le magazine Comme un lundi.
Et on va passer aux petites annonces ou... On va voir ce que c'est d'ailleurs, qu'est-ce que vous en laissez comme message sur la boîte vocale du 05 63 77 61 75 et on en reparle tout à l'heure.
Salut, c'est Java. Je m'adresse à tous ceux qui ont des cabanes au fond de leur jardin. Je leur dis, allez, pour des solitaires qui sont en galère, qui n'ont plus de chaumière, ceux qui ont payé leur peine en prison, soyons solidaires, mieux qu'un bout de pain, offrons un abri. Ils sont sans logis. Moi, j'ai un vieux potager. Dans mon potager, il s'y prend des murges, poète des murges. Un vide à passer, il était bouché. pas trop de futur à venir boucher. Je lui offre des roses quand il est morose, de grosses citrouilles dont il a la trouille. Mon voisin Marcel, il s'appelle Marcel. Il me dit, mademoiselle, ici, c'est pas la poubelle. Moi, je lui avais dit, au fond du jardin, où sont les outils, dans la petite cabane. Et il sortait de cabane, ancienne détenue. Il était tout ému, il était tout perdu. Moi, ça m'a ému.
Bonjour, je vous appelle en fait parce que j'ai entendu des émissions qui parlaient d'écologie d'environnement. C'était sans doute le soir, avec un invité qui venait, je pense, de l'Ariège et qui avait un accent qui roulait un peu les R. Et voilà, j'aurais bien aimé, je n'arrive pas à me souvenir, je n'arrive pas à retrouver trace de ces émissions. Donc j'aurais bien aimé en avoir une trace pour retrouver éventuellement le nom de l'invité. Au revoir.
Salut tout le monde, L'Empaillé, journal régional, est dorénavant dans le kiosque. J'y arrive pas.
Voilà, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout.
Mais on va continuer.
Oui, L'Empaillé, justement, pour une presse libre pour l'Occitanie. Peut-être vous avez vu au bord des routes poindre des affiches de ce nouveau journal régional. Et donc, cette dame voulait nous prévenir que ben, ça y est, c'est sorti. Le numéro 1 à l'échelle régionale est sorti. Et notamment que Radio ABS sera un point de vente de ce trimestriel régional. Et donc le premier numéro, vous pouvez venir l'acheter au prix de 3 euros au local de Radio Albitzès.
Qui est situé au 36 Square Bonaparte, dans le quartier de Campo à Albi. N'hésitez pas à passer nous voir et comme ça vous pourrez repartir avec L'Empaillé sous le bras.
Voilà, L'Empaillé qui est une grosse publication. Je lis quelques titres du sommaire actuel. Mm-hmm. Loi sécurité, contrôle total, point d'interrogation. Vendange, pirates et cépages interdits. Enfance sous protocole Covid. Massage femmes et féministes. Ou encore l'impasse des abattoirs industriels. Voilà, c'est un journal qui couvre Toulouse, Pyrénées, Ariège, Aude. Donc L'Empaillé qui avait une formule plus locale et qui sort maintenant en régional son numéro 1.
Eh bien, super nouvelle, et puis on leur souhaite bonne chance et bon courage dans cette expérience, et puis en espérant que peut-être ça concurrence un autre journal régional à grande.
Donc il est question d'ailleurs d'un seul numéro.
Ampleur, très bien.
Pour l'auditeur qui nous a laissé une question sur le programme, on n'a pas trouvé, alors il nous faudrait plus de précisions. Si quand vous entendez des choses sur Radio Albitzès pour la musique ou pour des émissions, n'hésitez pas à nous appeler pour savoir ce que c'est, mais laissez-nous des précisions assez précises, comme on dit.
Notamment le jour et l'horaire.
Voilà,
oui, voilà. C'est tout ce qu'il nous faut.
Parce que des accents ariégeois qui roulent les R, c'est possible qu'il y en ait eu sur Radio Albitzès, mais quand, on ne sait pas.
Alors, est-ce que c'était un accent ariégeois ou un accent patois de Carmont?
C'est ça.
Il ne faut pas
fâcher tout le monde en plus. Là. Donc voilà, n'hésitez pas. La boîte vocale locale, c'est au 05 63 77 61 75. Vous avez 2 minutes pour laisser votre message. Et vous pouvez laisser votre numéro aussi si on doit vous rappeler pour vous donner une info.
Et puis si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave, n'hésitez pas à retenter. Hein.
Oui, ça se fait aussi. Voilà, on gardera la meilleure version des plusieurs essais.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de ce magazine comme un lundi. Merci, chers collègues. Oui, il a la technique d'une main de maître, comme d'habitude, et Arnaud avec moi dans le studio. On rappelle que ce magazine a été présenté en direct le lundi à midi et rediffusé à 18h, toujours sur Radio Albigès, et que vous pouvez le réécouter quand vous voulez en podcast à partir du lundi après-midi, en passant soit par notre page Facebook ou par notre site radioalbigès.com. Merci à vous d'être avec nous et on vous souhaite une très belle journée, très belle soirée à l'écoute de Radio Albigès.
Et bonne semaine à tous.
Al plaisir, brave monde.